Jean-Bernard Leroy. Voici donc mon exposé du mois de septembre. C'est exposé sur Après la Ligue, et la personnalité la plus marquante de cette époque est Saint-François de Sales. Au lendemain de la Ligue, la France connut comme une détente. La paix revenue, il y eut une tendance au relâchement, au laisser-aller, même parmi les clergés. Mais certains se sont plaints à M. Vincent que de nombreux prêtres laissaient mourir leurs ouailles sans trop s'en soucier. Il y avait à la cour des êtres qui se croyaient tout permis, ne cherchant qu'à jouir de la vie, à en cueillir les fleurs, en étalant une puissance insolente, fondée parfois sur une distinction entre nobles et vilains, qui est surtout une source d'orgueil et de corruption. Mais il restait chez beaucoup une recherche d'approfondissement moral. Le cardinal Bourdaloue le disait, si certains faits monstrueux sont le fait de la cour, il n'en est pas de même chez les gens de moyen état, on dirait maintenant les classes moyennes, en qui, Dieu merci, vit encore la loi de Dieu. D'ailleurs, même dans les milieux réputés élevés, les bons exemples n'étaient pas rares. On pouvait constater l'épanouissement de divers ordres religieux et une tendance mystique dans les arts, le nain, le sueur, couperin, etc. L'esprit de pénitence reprenait des forces. Capucins, Feuillants, Chartreux, les abbayes de femmes se multipliaient, on pense à Port-Royal. En 1604, on envoya chercher les carmélites en Espagne. En 1606, elles se sont installées à Paris. Quelques années plus tard, il y avait 62 maisons. Elles portaient un témoignage irremplaçable. Elles réconfortaient des âmes qui ressentaient parfois quelques nostalgies à l'issue de fêtes pourtant réussies. Madame de Sévigné, Madame de Lavallière ont été du nombre. Le contraste de leur vie avec celle des pénitentes faisait revenir vers la pensée de Dieu. Après la guerre de religion, il régnait un certain esprit de tolérance, pensant qu'il ne faut pas forcer en matière de religion, car ce que l'on arrache trop brutalement du cœur risque de laisser croire à un Dieu inaccessible, voire de conduire à l'agnosticisme et même à l'athéisme. L'Église a réagi contre une certaine indifférence en prêchant que l'essentiel était de se vouer aux âmes en consacrant sa vie aux plus faibles. Saint Jean de Dieu le fit pour les malades, et César de Busse, 1544-1607, fonda les prêtres de la doctrine chrétienne. En 1592, ces prêtres avaient le but d'évangéliser les campagnes. L'Église a toujours prêté une attention spéciale aux faibles. L'abbé Huvelin narre l'histoire d'un pauvre prêtre, Claude Bernard, converti à l'âge... aucun rapport avec le savant. Donc ce prêtre converti à l'âge de 22 ans. Il était au début plein d'entrain pour les plaisirs de ce monde, mais il avait encore plus besoin d'aimer que d'être aimé. Il prêchait plutôt mal et fut victime de bien des plaisanteries, mais sa générosité le rendit célèbre. Un jour, Richelieu lui demanda ce qu'il souhaitait. Il répondit « Faites-moi donc le plaisir d'ordonner de réparer la charrette dans laquelle on emmène les prisonniers que j'accompagne. » C'est lui qui organisait la visite aux prisonniers. On le raillait souvent, mais on l'écoutait avec émotion lorsqu'il racontait les propos de certains malades ou prisonniers peu avant de mourir. Où le bien va-t-il se nicher, pensaient ses auditeurs. De belles pensées peuvent jaillir de la tête de pauvres gens. Ce fut aussi le temps de saint François de Sales, 1567-1622. Il était né en Savoie, qui était alors un royaume indépendant. En 1602, il passa 6 mois à Paris pour travailler un mémoire dont l'avait chargé le duc de Savoie afin d'obtenir d'Henri IV le rétablissement des paroisses dans le pays de Gex, nouvellement cédé à la France. Mais ce pays demeurait canoniquement relié sous la juridiction de l'évêque de Genève. Les catholiques avaient été chassés de Genève par Calvin, qui avait régné de 1541 à 1564, 23 années bien longues. Saint François revint à Paris en 1609. Il y rédigea l'introduction à la vie dévote, un livre magnifique. Il était reçu dans un milieu très religieux, avec souvent des âmes tristes et troublées, ne sachant où s'accrocher. Il fit remarquer à l'une d'elles, Madame Akari, que ce dont elle s'accusait en confession n'était souvent que des négligences liées à l'imperfection de la nature humaine, sans être forcément des péchés véniels, dans lesquels se trouve une bonne volonté, dans lequel un péché véniel dans lesquels se trouve une volonté délibérée d'offenser Dieu. Saint François savait que toutes les natures ne sont pas faites pour entrer dans le même moule, et que, comme le disait plus tard Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, il fallait laisser fleurir et s'épanouir ce qui peut tourner au service de Dieu, que chacun fleurisse dans le pot où Dieu l'a mis. À l'âge de 35 ans, Saint François de Sales avait déjà une solide réputation de sainteté. On disait qu'il était le semeur par excellence. Il prêchait partout où on l'appelait, même à la cour, quoiqu'il préférât les petites chapelles. Il est parvenu à convertir des protestants sans faire de controverse, rien qu'en parlant de la prière, en mettant dans le cœur le désir d'aimer. Il orientait les âmes vers le vrai, le désir du vrai et le désir de faire du bien. Son livre le plus connu est l'Introduction à la vie dévote. Dans l'introduction de ce texte, on peut dire « Celui qui s'est attaché à la pratique du jeûne se croit dévot, quoiqu'il nourrisse dans son cœur une rancune secrète. Et, tandis qu'il n'ose pas tremper le bout de sa langue dans du vin ou même dans de l'eau, de peur de blesser la tempérance, il goûte avec plaisir tout ce que lui suggère la médisance et la calomnie, insatiable du sang du prochain. La vraie et splendide dévotion n'est autre chose qu'un vrai amour de Dieu. Et Dieu est amour, comme l'a dit dernièrement Benoît XVI. La finesse de Saint François naît dans la clairvoyance que donne l'affection pour les âmes que l'on veut sauver. Sa devise pourrait être « Bienheureux les doux, car ils auront la terre en héritage ». Mais cette douceur n'est pas une faiblesse. C'est une douceur conquise sur une nature vive, où l'émotion est facile, mais où l'on sent le calme établi dans la mer, orageuse du cœur. La miséricorde divine est créatrice. On dit que la nature de Saint François était plutôt violente et que son foie portait la marque des grands efforts qu'il a faits pour les dominer. Saint François n'était pas un saint triste. Il prêchait, donnez du vôtre, répandez largement ce que le Christ vous donne. Prouvez votre reconnaissance envers celui qui vous a comblé. Il s'agit d'une gaieté qui n'est pas le début d'une passion, mais une lueur qui détend l'âme et la rend meilleure. Au regard des mondains, il passait pour donner à bon marché. Les mondains pensaient qu'une religion vraie devait être dure, voire impossible. Saint François dirigeait dans un esprit de patience. Il autorisait le bal à ses pénitentes, tout en rappelant qu'aller au bal n'est pas pratiquer la dévotion. Il n'a jamais encouragé à pendre Il n'a jamais encouragé à perdre dans le flot de la vie mondaine le petit filet doux de la dévotion, mais à prendre soin de sa grandeur. Saint Paul disait déjà, quoi que vous fassiez, que ce soit par amour de Dieu. La béatification de Saint François en 1661 et sa canonisation en 1665 scandalisèrent les mondains. Ils le présentaient comme le modèle du parfait courtisan, facile, trichant au jeu pour donner à ses pauvres. Il disait qu'il rapetissait la dévotion et voulait aller au ciel en carrosse. Ce ne sont là que racontars de pharisiens choqués de le voir mettre un peu de miel au bord de son calice. Grâce à Saint François, nous savons que l'on peut être dévot sans afficher une mine d'enterrement, sans refuser les menus plaisirs du veau gras, du fils prodigue, ou du vin des noces de Cana. Terminons par un passage de la vie dévote. La dévotion doit être différemment pratiquée par le gentilhomme, par l'artisan, par le domestique, par le prince, par la veuve, par la fille, par la femme mariée. Il faut donc accommoder la pratique de la dévotion à la santé, aux affaires et aux devoirs de chacun, surtout les devoirs. Serait-ce une chose louable qu'un évêque voulût être solitaire comme un chartreux, que les personnes mariées ne pensassent plus à leur fortune, qu'un capucin, qu'un artisan fût assidu à l'office de l'Église comme un religieux, etc. C'est une erreur, et même une hérésie, de vouloir bannir la vie dévote de la cour des princes, des armées, de la boutique des artisans et de la maison des personnes mariées. Respectons le rôle, les devoirs, tout ce que Dieu nous a confié. Je vous souhaite un bon été.